Court Ethique par le Pemery Dominique Philippe, le 19 octobre 2001 à Saint-Gédard.
L'éthique religieuse commence par l'affirmation de l'existence de Dieu, du Dieu créateur de mon âme. Alors cette découverte, elle est ou philosophique, elle peut être philosophique, elle n'est pas tout de suite, on met du temps à découvrir vraiment l'exigence nécessaire d'affirmer Dieu créateur. Donc, ça y est, il faut dire qu'on en est capable. Et il faut espérer qu'un jour, dans notre vie, ce sera une évidence. Ça doit devenir une évidence. La parole du psaume est suffisamment forte. Incipiens ixit in corde suo, non est Deus. C'est incipiens. Donc tous ceux qui disent que ça peut arriver échappent à cette qualification d'incipiens. Incipiens, c'est celui qui affirme que Dieu n'existe pas. Ah, ils sont heureux aujourd'hui. Quand l'intelligence et le cœur, parce que l'affirmation de Dieu, de l'existence de Dieu, c'est le dépassement d'une pensée purement logique. En pure logique, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Alors, beaucoup de personnes ne croient que c'est objectif que quand c'est logique. Cette espèce d'identification et de la logique et de l'objectif est terrible. Mais il existe. Il existe même quelquefois chez les thomistes. J'ai de quantité actuellement de personnes, parce que ils connaissent comme évidence que l'évidence logique. Alors que l'évidence métaphysique, ceci est. Le point de vue de la métaphysique, c'est l'évidence de ce qui est. Et l'analyse de ce qui est, l'évidence de la substance, l'évidence de l'acte. Et les deux évidences de l'acte et de la substance, quand elles sont liées dans une unique, c'est une évidence qui n'est pas logique. La logique s'arrête pour de pouvoir vraiment exister pour tout ce qui n'est pas directement l'expérience. Elle joue au point de vue découverte de certains principes, mais pas des principes métaphysiques. Dès que je découvre l'existence de Dieu comme mon créateur, ma réponse à ce moment-là est une réponse affective. Je l'adore. C'est la réponse affective, naturellement, la plus profonde, celle-là. Parce que c'est l'intelligence aidée de la volonté qui a affirmé l'existence de Dieu. et dès que mon intelligence aidée de l'affectivité, pas dans l'objectivité, l'objectivité passe sur la primauté de l'être en acte, qui est nécessairement premier. Mais cherchant la vérité et aimant la vérité, j'aime cette découverte de l'existence de Dieu et cela m'aide. Surtout si je découvre Dieu en m'aidant de l'amitié. L'expérience la plus riche que j'ai, c'est l'expérience d'une personne qui est mon ami. Et si c'est cela qui me permet de poser l'existence de Dieu, nécessairement, ma volonté n'est pas absente de cette preuve de l'existence de Dieu. Mais elle n'est pas première. C'est pas, je ne dirais pas que c'est la volonté qui me permet de poser Dieu. C'est l'intelligence dans un poussé, dans son amour de la vérité. Il faut aimer énormément la vérité pour découvrir l'existence de Dieu. Parce que c'est la vérité fondamentale, découvrir l'existence de Dieu. Et mon intelligence, à ce moment-là, connaît sa vraie fin. La vérité la plus forte que je puis affirmer ici-bas, c'est Dieu existe, il existe, c'est mon Dieu. Parce que dès que je découvre Dieu, je découvre mon Dieu. Hein. C'est moi qui le découvre, c'est ma personne. Et ma personne découvre mon Créateur. Et découvrir mon Créateur, c'est découvrir mon Père, Père de l'intelligence. Évidemment, c'est au plan surnaturel, quand je dis mon Père, quand je dis notre Père, on atteint autre. On atteint le Père, qui est le Père du Fils et de l'Esprit Saint. On est dans l'ordre surnaturel. C'est pour ça qu'il y a équivoque quelquefois entre les deux. J'atteins le Père de mon intelligence et de mon cœur, naturellement. Dès que j'ai posé l'existence de Dieu, toute ma vie est changée. Et ce premier changement, c'est d'adorer volontairement. Je veux adorer celui qui est le créateur de mon âme, celui dont je dépends radicalement, foncièrement, celui qui a créé mon âme. Et en créant mon âme, il a créé ce qui, en moi, est le plus précieux, le plus profond, le plus vital, le plus aimant. Il a créé ce qui me permet d'être, d'exister d'une manière autonome. Et en même temps, en reconnaissant la totale dépendance à l'égard du Créateur. Il y a les deux. Hein. Et quelquefois, on n'arrive pas à lier les deux, lier à la fois l'indépendance et la dépendance. L'indépendance, mon âme, c'est moi. Et moi, dans mon être, je suis complètement indépendant de tous les êtres que j'expérimente. Il y a une indépendance fondamentale, métaphysique, de « je suis ». Parce que tous ceux qui sont autour de moi, qui sont mes contemporains, ne touchent pas mon être. Dans mon être, je suis intouchable par eux. Ils peuvent me connaître, mais ils ne peuvent pas transformer mon être. Et une indépendance farouche, qui est belle, qui est grande, et que je ne connais que dans mon être. Je ne connais pas l'indépendance de mon voisin. Il peut m'écouter, il peut dialoguer avec moi, mais il garde son indépendance. Et c'est pour ça, du reste, qu'il peut dialoguer avec moi. C'est parce que je respecte son être. Je ne peux rien changer et modifier son être. Je touche en même temps cette autonomie dans l'être et dépendance radicale à l'égard de Dieu. Vous voyez, je suis autonome par rapport à toutes les créatures. Toutes les créatures ne peuvent pas atteindre mon être, mon exister. Et en même temps, sous un autre aspect, c'est évident, je suis totalement dépendant de mon Créateur. Je suis le fruit d'un acte de sa part qui est absolument libre. Il m'a créé dans la liberté. Il m'a créé d'une façon surabondante. Je ne peux rien changer en lui. Je ne peux que l'adorer. Et quand je dis que je ne peux que l'adorer, l'adoration, je ne modifie rien en Dieu. C'est bien évident. Je suis totalement dépendant de lui. J'ai tout reçu de lui gratuitement. En ayant le sens de cette dépendance à l'égard du Créateur, je saisis que c'est gratuitement qu'il m'a créé. Et donc, son acte créateur sur moi ne dépend que de lui. Je suis celui qui reçoit et qui reçoit en recevant tout de lui et en étant radicalement dépendant de lui dans mon être. Mais il veut en même temps, c'est sa volonté, que j'ai cette autonomie à l'égard de tous les autres. Personne ne peut exercer sur moi le pouvoir de Dieu sur mon être. Dieu me crée comme un être qui peut avoir cette fierté de ne dépendre que de Dieu dans son être. C'est la plus grande des fiertés, ça. Parce que Dieu ne peut pas gêner sa créature. Le seul être qui ne me gêne pas, c'est Dieu. Puisqu'il me donne tout. Il m'a tout donné. Donc il ne me gêne pas. Et il ne peut pas me gêner. Il ne peut pas me gêner. Il serait plus Dieu s'il me gênait. Parce que s'il me gênait, ça prouve qu'il serait comme moi, relatif à moi. Il n'y a que les êtres qui me sont relatifs, qui me sont gênants. Les autres êtres, non. Il n'est pas relatif du tout. On n'est pas gêné par Dieu. Il y a une telle transcendance, une telle grandeur. Quand on dit « terribilis Deus », Dieu est terrible. C'est à côté de l'adoration. L'adoration, c'est mon premier acte d'amour à l'égard de Dieu. C'est un acte d'amour. En adorant, je remercie Dieu de m'avoir créé à partir de rien. Ex nihilo, à partir de rien. Donc, tout en moi, dans mon être, et au niveau de mon être, dépend de lui. Ce qui dépend de mes parents, l'atavisme, c'est du côté de mon corps. Alors, c'est sûr, dans l'exercice de mes actes, mon corps intervient. Et donc, il n'y a pas que Dieu. L'atavisme fait que je suis en dépendance de mon père et de ma mère et de mes ancêtres. Mais cette dépendance individuelle est une dépendance secondaire qui n'existe qu'à cause de mon âme. Et mon âme est en dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et donc cette dépendance à l'égard de tous les autres, c'est une dépendance secondaire. Elle n'est pas première. L'adoration ne regarde que cette dépendance. L'adoration ne me rectifie pas à cause de mon atavisme. Ma dépendance quant à mon corps vis-à-vis de mes ancêtres. Je peux avoir des... Quelquefois, si j'ai eu des ancêtres qui n'ont pas été remarquables, honnêtes, qui ont été des criminels, mais ça se ressent. Et on peut avoir à ce moment-là une espèce d'opposition aux ancêtres, aux pères et mères. Ça peut arriver. Des enfants qui ont été abandonnés. L'adoration porte non pas là-dessus, mais elle porte sur ce qu'il y a de plus vivant en moi, de plus secret, c'est mon âme. C'est mon âme qui ne dépend que de Dieu et qui a été créée par pur amour. Au fond, l'acte d'adoration regarde la pureté de ce don que Dieu m'a fait de mon âme. C'est pour ça que l'adoration est un acte si profond. Et c'est rare qu'on adore vraiment dans cette profondeur, qu'on atteint ce nœud très profond en moi qui qui est mon exister, ce qui est en acte en moi et qui dépasse tout conditionnement, qui dépasse toute dépendance relative et seconde. Je touche en moi la source de mon acte, ce qui est si pur, si merveilleusement pur et limpide, mon âme créée en tant que source d'être. Et je reconnais que cela est un don actuel de Dieu. Et je m'appuie sur ce don actuel de Dieu pour remonter jusqu'à Dieu et le remercier. Et le remercier vraiment de m'avoir créé. D'avoir permis qu'entre lui, Créateur Tout-Puissant, absolument indépendant de toutes les circonstances, par pur don, a créé mon âme. Il y a un dialogue entre Dieu et mon âme qui est unique, adoré. Je crois que c'est très important d'essayer de tendre à cette purification très radicale pour rejoindre le don que Dieu m'a fait. Je ne le fais pas tout de suite. Des quantités de personnes adorent parce qu'il faut adorer, sans avoir réfléchi vraiment à ce que cela représente. Mais si nous faisons de la métaphysique, c'est pour ça. Si je recherche ce que c'est que la substance, ce que c'est que l'acte, c'est pour pouvoir avoir un regard suffisamment pur du don que Dieu m'a fait de mon âme. Je touche à la finalité. Hein. Ce don que Dieu a fait de mon âme, qui est un pur don. Et un don qui dure, qui est au-delà du temps, qui est dans le temps et qui est au-delà du temps. Parce que personne ne peut rien faire par rapport à ce don. Personne ne peut diminuer ce don. Ce don est toujours absolu, puisqu'il n'y avait rien. Et le fait que mon âme est créée dans mon corps, et que je ne sais pas à quel moment mon âme a été créée, on en invente toujours là-dessus. Il faut comprendre que mon intelligence ne peut pas. Puisque mon intelligence présuppose la création. Je ne suis pas avant. Je n'ai pas été spectateur de la création de mon âme. Ça devait être très beau. Les anges ont été spectateurs de la création de mon âme. Et ça, dès qu'on parle des anges, on quitte la philo. On pose des hypothèses. En pure philosophie, je peux seulement parler de Dieu et de mon âme, cette relation de moi-même, prenant conscience de ce qu'est mon âme, source de vie, source d'être pour moi. Je prends cette conscience de cette totale dépendance qui est toute ma richesse. Et tout le reste à côté, l'individuation de mon âme par rapport à mon corps, c'est second. C'est second. Ça me libère beaucoup, vous voyez, pour adorer. Pour adorer, vous ne regardez pas que vous êtes très beau. Vous êtes infirme. Vous existez. Et c'est l'exister que vous regardez. Et c'est elle exister, c'est exister mon âme. Et ce n'est pas mon intelligence très développée ou peu développée, ce n'est pas mon amour. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus radical. L'adoration est au fond le premier amour qui s'adresse à Dieu. C'est le premier amour. Et je m'éveille dans ce premier amour. Et je me développe dans ce premier amour. Et ce premier amour qui est de remonter jusqu'à mon Créateur, le Créateur de mon âme, me permet de comprendre ce que ça représente pour moi. Si je touche à ce premier amour, ne voulant pas le regarder, ne voulant pas regarder cette création de mon âme, je me mets dans une attitude fausse, radicalement fausse. Et donc, je dois reconnaître qu'à partir de là, tout est faussé. Parce que la première connaissance qui est radicale, qui regarde ce qu'il y a de plus intime en moi, le premier amour, c'est à l'égard de Dieu, le premier dans l'ordre de la dignité. Parce que normalement, le petit enfant a aimé d'abord sa mère. C'est du reste très touchant de voir comment Dieu s'efface. Dieu s'est caché derrière la mère. Dieu s'est caché derrière le père. La dépendance tout à fait secondaire, mais quand même essentielle, est devenue première. C'est très intéressant du reste, parce que là on voit comment une donnée purement historique est toujours seconde, jamais première. Il suffit de réfléchir à cela pour savoir que la sagesse regarde ce qui est premier. Et ce qui est premier, c'est ce qui est d'ultime. Alpha et l'oméga, je rejoins l'éternité là. Quelque chose d'éternel, quelque chose qui est au-delà du temps. Tandis que l'ordre historique, c'est de regarder en premier lieu l'atavisme, cette dépendance à l'égard de ma mère. Cette dépendance à l'égard de mon père. Et je remonte dans la Davise, parce qu'on peut aller assez loin dans la Davise, on peut aller 9 générations. C'est très curieux comment il y a une dépendance très cachée. C'est peut-être pour ça, du reste, qu'elle apparaît aux yeux de beaucoup comme la dépendance fondamentale. Elle n'est pas la dépendance fondamentale. Elle n'est pas la dépendance première. Et c'est pour ça que si je n'arrive pas à saisir cette dépendance première qui se traduit dans l'adoration, il y a toujours en moi quelque chose qui n'est pas stable. La première chose stable en moi, c'est ça. je suis, par la création de mon âme, immortel. Je suis appelé à une stabilité immortelle. Et ça, ça c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'adoration. Et qui est inscrit dans l'adoration, qui est quelque chose de premier. Mon adoration rejoint le geste de Dieu sur moi. Et ce geste est éternel. Et donc je rejoins quelque chose qui est éternel. Et je peux le faire. Naturellement, l'adoration est un acte naturel de l'homme, digne de l'homme, même si par l'adoration que vous acquérez une dignité qui reste humaine, mais une dignité de créature de Dieu. Vous n'êtes pas uniquement au niveau terrestre. Il y a en vous quelque chose qui dépasse le terrestre et qui atteint l'éternel. L'adoration est un acte naturel de l'homme. Tout homme devrait pouvoir, doit pouvoir atteindre ce geste qui humainement est le plus parfait, le plus grand, puisqu'il atteint Dieu, il remonte jusqu'au Créateur. Donc rien ne peut être plus grand que celui-là. Et ce geste demeure pour nous comme chrétiens. Il y a quelque chose qui est présupposé à la grâce, la créature. Donc la création de l'âme. Puisque la grâce n'est donnée qu'à celui qui a une âme créée à l'image de Dieu. Donc, c'est ce qui est nécessaire, absolument nécessaire, pour découvrir tous les autres liens qui peuvent exister avec Dieu. Et c'est ce premier lien qui est très spécialement caractéristique, parce que ce lien avec Dieu comme créateur, ce lien qui consiste à voir que mon âme est créée par Dieu et que la vie de mon âme est ce qui en moi est de plus grand. Le plus beau, mon corps est limité par le temps, il est inscrit dans le temps. Et mon corps par lui-même ne peut pas remonter jusqu'à Dieu. Il reste lié au temps. Tandis que mon âme, par l'adoration, remonte jusqu'au Créateur. C'est reconnaître que Dieu est créateur de mon âme, qui est la chose humainement la plus grande que je puis faire, que je puis réaliser. c'est ce qui source pour moi de ma plus grande noblesse. Je suis de race divine par mon âme. Et c'est grand d'être de race divine. Et je suis, étant de race divine, extrêmement fragile, extrêmement petit et faible. Mon existence peut me paraître, et c'est vrai, c'est bien quelque chose de très grand. Mais en même temps, il me montre ma fragilité, ma faiblesse. C'est que cet acte d'adoration se réalise dans un être fragile qui a un corps. Mon corps n'est pas directement regardé dans l'acte d'adoration, mais dans l'acte d'adoration, tout ce qui en moi est créé directement par Dieu, remonte directement par Dieu. Ce qui est créé par le concours des causes secondes et selon l'ordre des causes secondes est donc créé immédiatement par les causes secondes. Mais il est créé quand même, puisque mon corps n'existe que par mon âme. Et mon corps n'a que cette existence-là. Et donc, mon corps n'adore que par mon âme. Mon corps sera là pour permettre à l'adoration de s'emparer de ce monde. Mais évidemment, il respecte que Dieu est créateur et que Dieu, comme créateur, fait ce qu'il veut. Et il a créé des êtres semblables à moi-même qui sont liés à Dieu et qui existe en dépendance de Dieu. Vous voyez combien le fait de ne plus vouloir regarder l'âme créée par Dieu, vouloir supprimer de l'homme cette dimension, c'est donc par le fait même s'engager dans une voie qui n'est pas vraie. Tout est faussé. Et c'est ça qui est terrible, de voir des hommes s'engouffrer dans une voie où vraiment on ne peut plus comprendre l'homme. Puisque ce qui est le propre de l'homme, qui est d'avoir une âme créée par Dieu, est rejeté. On se rabat donc sur son corps. Et le corps est second. Et par le fait même, il y a une incompréhension radicale de l'homme. On ne peut plus découvrir la vraie finalité de l'homme. La vraie finalité de l'homme, c'est remonter à Dieu, son Créateur, son Père, le reconnaître. l'adorer. Parce que l'adoration, c'est la reconnaissance de cela. Et je ne suis vrai que lorsque je reconnais celui qui est à la fois fin et à l'origine, puisque les deux se rejoignent. C'est quelque chose que nous devons longuement méditer à notre époque, vu cette attitude que nous voyons, le rejet complet de tout ce qui est religieux. Nous devons chercher à le comprendre. Chercher à le comprendre, c'est parce qu'on veut exalter l'homme et le considérer comme premier dans l'ordre de l'être, alors qu'il est second, relatif à un créateur. Et intellectuellement, refuser ça, c'est refuser la vérité la plus foncière, et par le fait même, c'est bâtir toute notre réflexion sur l'homme sur quelque chose qui ne tient pas, qui est relatif, qui ne peut pas être premier. Tout l'édifice qu'on peut construire s'ébranle, ne tient pas. Puisque l'homme, en tant qu'homme, repose sur l'acte créateur de Dieu. Alors, vous voyez comment la compréhension que nous avons de l'intelligence humaine, qui est capable de découvrir l'origine de notre être, qui est capable de reconnaître notre dignité qui consiste à adorer Dieu et à l'aimer. C'est par le fait même se mettre dans un état, dans une circonstance qui fait que tout s'écroule. Il y a pour nous, je crois, un acte absolument nécessaire, voulu par Dieu, l'acte qui consiste à chercher à connaître l'existence de l'homme et à voir qu'on doit proclamer que cet homme ne peut exister qu'en reconnaissant la création, en reconnaissant qu'il est second. Alors une fois qu'il reconnaît qu'il est second et qu'il dépend d'un pur vouloir de Dieu, d'une volonté aimante de Dieu, on cherche par le fait même à être le plus proche possible de cette source cachée, d'être d'être le plus proche possible de son bon plaisir, qui nous a créés, non pas obligés par quelqu'un d'autre, mais qui nous a créés par pur amour. Et ces effets du pur amour du Créateur sur nous, par la création, nous permettent de voir qu'il crée vraiment pour ceux qui en ont le plus le sens qui vient de lui du reste, puisque nous n'existions pas avant le don de Dieu. C'est donc que tout est dans ce don de Dieu, et qu'en recevant ce don de Dieu, nous accaparons en quelque sorte son acte créateur, nous le prenons pour remonter jusqu'à lui et pour être tout proche de lui, le plus intime possible. Je crois que découvrir par notre intelligence humaine et par notre volonté cet acte de Dieu sur nous, c'est la plus grande chose que nous pouvons faire au plan métaphysique. Ce n'est plus de la métaphysique, hein, c'est le dépassement, c'est la théologie, c'est Dieu avec nous, et c'est nous avec Dieu. C'est nous recevant de Dieu ce que seul Dieu peut donner. On doit, par tous les moyens, essayer de tendre intellectuellement, avoir ce regard très pur pour découvrir l'existence de Dieu et découvrir l'acte créateur de Dieu, créateur de mon âme. Parce qu'on comprend que c'est cela qui dépasse toute espèce de vérité. C'est la première vérité. Nous sommes une créature de Dieu.